France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure est à Nexon, près de Limoges. Et c'est donc la Haute-Vienne qui est à l'honneur cette semaine. Inventaire non exhaustif d'initiatives dans ce département de la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, la parole est à un homme qui défend les vers de terre. Il a créé, c'est très sérieux, la Ligue de protection des vers de terre pour leur octroyer un statut juridique. Vous allez comprendre. Ensuite, j'appelle la créatrice d'une petite entreprise à Limoges. Elle vend des ceintures recyclées à partir de tuyaux d'incendie récupérés chez les pompiers. Donner une nouvelle vie à un objet devenu déchet, c'est toujours une bonne idée. Et d'autant plus quand l'objet en question est aussi précieux. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
J'ai le grand honneur de recevoir dans cette émission le porte-parole des Vers de Terre. Bonjour Christophe Gatineau.
Bonjour.
Vous êtes agronome, auteur de « Éloge du ver de terre » paru en 2018 chez Flammarion, gros succès d'édition, et président de la Ligue de protection du ver de terre, qui est un peu plus récente. Vous habitez Népoux, en Haute-Vienne. Votre combat, Christophe Gatineau, c'est notamment de réclamer une existence juridique pour le ver de terre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est d'ailleurs l'objet de l'association. L'objet de l'association, en fait, c'est de contribuer à la préservation des vers de terre et à leur protection juridique, ainsi qu'à leur réhabilitation dans le modèle agricole. Alors, vous noterez que j'ai pas dit protection des vers de terre, parce que ça va vraiment partir de trop loin, donc c'est préservation. Aujourd'hui, pour exister dans la société, il faut déjà être nommé dans la loi. On peut prendre l'exemple du renard. Le renard, il est classé nuisible, mais parce qu'il existe dans la loi. Donc on peut se battre pour lui faire changer son statut, mais pour les vers de terre, c'est strictement impossible, puisqu'il n'existe pas. Et une fois qu'ils seront nommés par la loi, en fait, on pourra faire évoluer leur statut, et en particulier, peut-être obtenir un jour la préservation d'une espèce qui serait déjà extraordinaire.
Je me permets une petite précision. On ne parle plus de nuisible, désormais dans la loi, mais d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Qu'est-ce que ça changerait alors qu'ils aient un statut juridique, une existence juridique dans le cas d'espèces ?
S'ils avaient une existence juridique, par exemple, on pourrait obliger l'État à évaluer la toxicité des pesticides sur les vers de terre. Voilà, c'est un exemple, mais on pourrait aussi obliger l'État à évaluer les outils agricoles, l'impact des outils agricoles. Souvent, on va parler, par exemple, de la charrue. La charrue tue les vers de terre. Non, c'est pas vrai, en fait. La charrue ne tue pas les vers de terre. Mais en revanche, tous les outils tournant, c'est-à-dire style rotovator ou au niveau des jardins, les fraises qui vont tourner très très vite, ou alors les herses rotatives. On sait que dans une herse rotative, qui est très très utilisée en milieu agricole, 70% des vers de terre qui passent à travers ces outils, ces petits trucs qui tournent très très rapidement, sont morts en fait. Donc là, on aurait une obligation d'évaluer ce genre d'outils, par exemple.
Pourquoi est-ce que vous êtes autant attaché à la défense du ver de terre, Christophe Gatineau ? Pourquoi cet animal est-il indispensable à son écosystème ?
Il est indispensable tout simplement parce que, en fait, les vers de terre nourrissent les plantes qui nourrissent les animaux qui nous nourrissent. C'est un marqueur de la bonne santé des sols. Mais ça va bien au-delà finalement, parce que souvent, quand on parle des vers de terre, on dit oui, ça interagit sur la qualité des sols, sur la croissance des plantes. C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi une source d'alimentation pour la biodiversité animale, en fait. Donc, énormément d'animaux se nourrissent de vers de terre. Par exemple, la taupe. Mais il y a des animaux beaucoup moins connus, le hérisson. Les musaraignes, par exemple. Les musaraignes, elles adorent les vers de terre. Les lézards, ils adorent les vers de terre. Ils se nourrissent de vers de terre. Alors pourquoi tout ce petit monde va chercher les vers de terre ? Tout simplement parce qu'ils ont une teneur tout à fait exceptionnelle en protéines. Ils sont trois fois plus riches, en fin de compte, que la viande en protéines. Mais vous avez d'autres animaux, peut-être plus surprenants. Les crapauds, par exemple. Puis après, tous les oiseaux. La majorité des oiseaux en France se nourrissent de vers de terre. Donc vraiment, une grande partie de la biodiversité dépend de la ressource en vers de terre.
Et quelle est la situation des vers de terre aujourd'hui ? À quel point sont-ils menacés, Christophe ?
En fait, là, on en a besoin des vers de terre. Alors, bien sûr, on en a besoin partout. Il y a du sol, il y a du vers de terre, en fait. Mais là, on en a vraiment besoin, c'est dans les zones agricoles, là où il y a des cultures, en fin de compte, parce qu'ils vont participer à améliorer les rendements, etc. Et c'est là justement où ils sont en danger aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, paradoxalement, on peut avoir des prairies où on va avoir une belle ressource en vers de terre. Alors, vous dire une belle ressource, je vais essayer de trouver des images, mais on va dire que dans une prairie normande qui n'a jamais été retournée, en milieu légèrement humide, parce qu'on a besoin d'humidité pour les vers de terre, on peut avoir l'équivalent de 5 vaches par hectare en poids, en fin de compte, de vers de terre. Mais dans des sols du nord ou de beaux, des sols de ce qu'on appelle de grandes cultures qui restent la plupart du temps nus l'hiver, on peut avoir un veau mort. Quoi. C'est-à-dire que c'est une image, hein, bien évidemment, mais les vers de terre, ce qui les tue, ce sont ces sols nus en priorité. C'est-à-dire un vers de terre, c'est un animal qui a une bouche, qui a un anus, qui a besoin de manger, qui a besoin de digérer, qui a besoin de se reproduire. Et bien sûr, il se reproduit quand il a le ventre plein. Donc, tous ces facteurs-là sont importants. Et la première cause de mortalité des vers de terre, ce sont les sols nus. C'est-à-dire que c'est l'absence de nourriture. Et l'absence de nourriture engendre l'absence de reproduction.
Si on en revient à ce statut juridique que vous appelez de vos vœux, est-ce que ce serait aussi une façon de combattre la loi du plomb, par exemple, hein, cette loi pour la réintroduction de certains néonicotinoïdes qui a suscité une pétition largement signée? Est-ce que vous faites un lien entre la loi du plomb 1 et du plomb 2 et votre demande de statut juridique pour le vers de terre?
Je crois que jusqu'alors, en fait, si on avait de l'espoir, hein, on avait quand même de l'espoir parce que l'État reconnaissait, hein, tout l'intérêt des vers de terre. Il y a même eu en décembre 2021 une publication au Journal officiel reconnaissant tout l'intérêt des vers de terre pour l'agriculture, pour la biodiversité, etc. Mais la loi du plomb 1 a mis un point final, c'est-à-dire c'est un immense retour en arrière, c'est un vrai cimetière pour les vers de terre et la biodiversité, c'est-à-dire c'est le développement de l'agriculture industrielle, finalement, qui ne prend plus du tout en compte les sols vivants, et le sol n'est simplement qu'une matière inerte pour produire toujours plus, en fait. Donc, on repart à zéro, tout simplement, et je crois que du plomb 2 est en train d'enfoncer le clou de du plomb 1, c'est-à-dire on est vraiment sur une voie agro-industrielle qui ne prend plus du tout en compte, en fin de compte, la vie dans les sols et la vie en règle générale, la biodiversité en règle générale.
Et quels sont vos leviers d'action en tant que ligue de protection des vers de terre?
Je dirais que le premier levier, c'est la pédagogie. Il y a énormément d'ignorance sur les vers de terre, en fait. On fait énormément de pédagogie, on est présent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément, en même temps, c'est paradoxal, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que les vers de terre, en fait, font partie des animaux sauvages les plus étudiés dans le monde aujourd'hui, hein, puisqu'on environ... On va dire, en France, simplement en France, il y a 60 chercheurs qui travaillent sur les vers de terre pour comprendre ces animaux. Parce que quand on parle des vers de terre, c'est un ensemble d'espèces. Il y a quand même 4400 espèces dans le monde de vers de terre. On a de l'accompagnement. Moi, j'accompagne beaucoup de journalistes. On accompagne aussi des politiques pour vraiment comprendre que le sol est un milieu vivant. En fin de compte, certes, c'est l'habitat des vers de terre, mais... c'est aussi en même temps le logement de la biodiversité et c'est le milieu plus biodiversifié de la planète. Jusque-là, on pensait que c'était les océans, etc. Non, ce sont les sols. Les dernières études scientifiques, on était à peu près sur un quart de la biodiversité terrestre qui logeait dans les sols. Aujourd'hui, les dernières études montrent la moitié, voire jusqu'à 60% de la biodiversité terrestre loge dans les sols. C'est vraiment de là d'où a émergé, en fait, la vie sur la terre ferme, en fait. Voilà.
Je crois que vous avez beaucoup de respect pour Cléopâtre, Christophe Gatineau. Quel est le lien entre vous et la reine d'Égypte ?
Il y a 2050 ans, en fait, 2050 ans à peu près, un peu plus de 2000 ans, la grande reine d'Égypte avait fait sacraliser, avait préservé deux animaux essentiels à la fertilité de l'agriculture, les vers de terre et les scarabées, les bousiers étant essentiels pour disperser les bousses de vaches et fertiliser les sols.
Donc votre ligue de protection du vers de terre est dans la continuité du travail de Cléopâtre.
Complètement, absolument.
Avec la pédagogie donc comme levier d'action, Ligue de protection du vers de terre, association nationale basée en Haute-Vienne. Merci beaucoup Christophe Gatineau.
Merci beaucoup.
Et bonne journée, au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Nous avons reçu un message d'Isabelle qui vit à Panazol, tout près de Limoges. Je voulais vous parler de la formidable idée qu'ont eu les fondateurs de l'outil en main, écrit cette auditrice. Rapprocher les jeunes enfants des savoir-faire manuels des retraités dans des ateliers organisés le mercredi. Menuiserie, couture, mécanique, cette transmission intergénérationnelle permet aussi d'avoir une relation grands-parents, petits-enfants pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Je regarde ça de loin, poursuit-elle, en citoyenne, et je trouve que chaque commune devrait en avoir. Merci Isabelle pour ce message. L'outil en main, c'est à Panazol en effet, mais aussi dans plein d'autres recoins de France. On en a déjà parlé dans cette émission. Faites donc un tour sur leur site, hein, l'outilenmain.fr, pour voir si une activité manuelle enseignée par un ou une professionnelle à la retraite pourrait plaire à vos enfants près de chez vous. L'outil en main.
France Inter. Carnet de campagne.
Que fait un sapeur-pompier qui veut se lancer dans le réemploi? Eh bien, il recycle des tuyaux d'incendie, pardi. Bonjour Émilie Fauchadour.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la créatrice avec Mathias, votre mari, de la marque Firebelt à Limoges. Ce sont des ceintures fabriquées à partir de tuyaux. Alors vous êtes maître nageuse, Émilie. Mathias est sapeur-pompier professionnel. Comment est née cette idée de recyclage, de surcyclage de tuyaux?
L'aventure a débuté en 2020 où mon mari, donc sapeur-pompier professionnel dans sa caserne, voit partir les tuyaux à la poubelle, trop courts, percés. Donc il en découpe un au cutter et il le passe dans sa boucle de ceinture. Et là, il s'aperçoit que ça passe dans l'uniforme, dans la boucle de son uniforme. Donc du coup, il vient me voir et puis il m'en parle. Il a toujours beaucoup d'idées. Donc je me suis dit, allez hop, c'est parti, on se lance dans l'aventure. On a fait pas mal de prototypes et en fait, voilà, en 2021, on a créé le site et voilà.
Comment récupérez-vous les tuyaux? Est-ce qu'ils viennent de partout en France?
Alors oui, on essaye. Alors les tuyaux sont achetés par les SDIS, Service départemental d'incendie et de secours. Et donc nous, on les achète aux enchères, aux SDIS, qui sont vendeurs. Donc voilà, on travaille avec plusieurs départements, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, l'Aveyron, enfin voilà.
Ce qui est chouette, c'est que tous les tuyaux de pompiers ne sont pas de la même couleur, je crois.
Exactement, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans l'aventure. Donc autant les camions sont tous rouges, et par contre voilà, les tuyaux en fait sont de plein de couleurs différentes. On en a des rouges, mais également des fluos, roses, verts, jaunes, voilà, des blancs, des gris, et voilà, on a une palette de couleurs qui est quand même très très impressionnante.
Comment sont fabriquées vos ceintures Firebelt? Comment procédez-vous?
Alors, tout d'abord, ils ont tous une histoire parce qu'ils ont dormi aussi dans les camions, mais ils ont éteint des feux d'habitation, des feux de forêt. Donc, tous ces tuyaux ont une histoire. Nous, on les lave d'abord à haute température dans un ESAT de travailleurs handicapés, juste pas très loin de chez nous, en fait, dans le quartier, qu'on amène à vélo, d'ailleurs, avec la remorque. Et ensuite, on les ramène à la maison, on les découpe tous au cutter, un par un. Et ensuite, voilà, on les coud et on les façonne pour en faire des ceintures.
Les ceintures sont vendues 29 euros pièce sur votre site internet. Ce qui est amusant, c'est que c'est une boucle de ceinture comme symbole de l'économie circulaire.
Exactement, tout à fait. Et elle est très particulière parce que justement, toutes nos ceintures, en fait, se recoupent à la taille. Elles sont sur mesure. Donc, voilà, elles font toutes 1m30. Ça correspond à du XXL. Et ensuite, après, chez soi, on a fait un petit tuto YouTube, justement, pour les recouper à sa taille sur mesure.
Ah, vous avez fait une vidéo tutoriel pour expliquer aux clients et clientes comment tailler la ceinture. Oui, alors, les équipes de sapeurs-pompiers sont-elles vos premiers clients?
Oui, essentiellement. Nous, on vend sur notre site internet, mais également dans les congrès départementaux sapeurs-pompiers. Donc, c'est essentiellement quand même des sapeurs-pompiers.
Vous parliez de l'histoire de ces tuyaux. C'est vraiment le cœur de votre activité, Émilie. Ces tuyaux ont une âme, finalement.
Exactement. Alors, on peut pas raconter chaque tuyau, voilà, les feux qu'ils ont fait exactement. Mais par contre, oui, c'est sûr, ils ont tous participé et ils ont tous été utilisés, voilà, par des pompiers pour éteindre plein de choses. Donc, ils ont tous une histoire.
Firebelt, c'est donc à Limoges et les ceintures sont en vente sur votre site internet. On trouvera un lien sur le site des carnets de campagne. Merci beaucoup, Émilie Fauchadour.
De rien, Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.